avec un conflit armé de cette ampleur était-il inévitable?
Écoutez, je ne sais pas si on peut dire que l'escalade était inévitable, parce que bon, on se dit qu'il y a toujours de la place pour des négociations, il y a toujours de la place pour la diplomatie. Mais c'est sûr que les Russes avaient posé deux conditions, que l'Ukraine passe à un statut de neutralité, donc devienne un pays neutre, et que le pays soit démilitarisé. C'était les deux exigences russes. Et du côté de l'OTAN, que ce soit les Européens comme les Américains, ils considéraient que c'était deux conditions tout à fait inacceptables. Donc quelque part, du côté américain, on a considéré que les Russes n'étaient pas vraiment très sérieux parce que leurs demandes, leurs exigences étaient absolument inacceptables au départ, qu'ils faisaient une surenchère. Donc le fait que bon, cela n'a pas, on n'a pas pu négocier sur cette base-là, il est évident que dans la logique russe, il n'y avait pas d'autre option que de le régler d'un point de vue militaire, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et Abdourahmane, je commence toujours ce genre de questions et de discussions par mettre en avant le drame humain, parce que souvent, quand on intellectualise, qu'on est dans la géostratégie, on est dans des grandes réflexions globales, et on oublie qu'en dernier ressort, quelle que soit la nature des contradictions, quelle que soit la position que l'on puisse avoir par rapport au conflit, c'est un drame humain, c'est une tragédie humaine, et c'est tout à fait regrettable à mon avis.
On parle déjà de 1 million de réfugiés, sans compter bien sûr les victimes, les personnes qui sont mortes dans les bombardements, les affrontements. Alors Jean-François Seznec, on évoque beaucoup la volonté de rapprochement de Kiev avec l'OTAN, mais n'oublions pas que l'Ukraine voulait aussi une intégration dans l'Union européenne. Alors l'enjeu de cette crise n'est-il pas plus économique que militaire, pour ne pas dire sécuritaire finalement, ou les deux?
Bien sûr, c'est certainement les deux en fait, parce que il est certain que l'Ukraine aimerait bien faire partie de l'Europe, ça lui ouvrirait beaucoup de marchés. Et ça permettrait aussi aux Européens d'avoir 44 millions de consommateurs en plus. D'un autre côté, c'est en conflit direct avec la volonté de Monsieur Poutine et de Moscou de refaire l'empire soviétique de l'ancien temps. Donc c'est assez difficile, mais à l'heure actuelle, la Russie a beaucoup d'argent, donc peut se permettre de continuer une guerre pendant un certain temps, et l'Ukraine, bien sûr, est beaucoup plus faible et a besoin de l'Europe et donc peut-être même de l'OTAN. Mais effectivement, ça fait peur aux Russes d'avoir l'OTAN à la porte, d'autant plus que les trois pays baltes qui faisaient partie de l'Union soviétique, la Pologne qui faisait partie du royaume, si vous voulez, de l'Empire soviétique, maintenant font partie de l'OTAN. Donc ça fait peur à la Russie et il pousse ça énormément.
Alors René, vous pensez que Poutine se serait satisfait d'un statut neutre de Kiev comme il le réclame maintenant, ou vous pensez que ses ambitions vont au-delà de l'Ukraine? Parce qu'après, à un certain moment, il y aura forcément une frontière avec l'OTAN.
C'est vraiment une bonne question. Franchement, Abdourahmane, de mon point de vue, c'est la question. Parce que puisque les Occidentaux ont considéré que ce n'était pas une revendication raisonnable, donc il n'y a vraiment pas eu, semble-t-il, en tout cas publiquement, une conversation sur cette question-là. Mais écoutez, vous savez, j'ai lu il y a quelques jours cette contribution, cette tribune, cet article de Henry Kissinger, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, qui date de 2014. Déjà en 2014, lui-même disait qu'il pensait que pour que l'Ukraine puisse se développer et rester un pays en l'état, il ne fallait pas que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Donc lui déjà parlait de un peu ce qu'on appelle la Finlande, il parlait de la Finlande, en disant que le statut de la Finlande, qui est un statut neutre, comme celui de la Suède, du reste, donc ils ne sont pas membres de l'OTAN, mais ils sont membres de l'Union européenne. Alors, lui, ce qu'il proposait comme compromis en 2014, c'était que l'Ukraine reste un pays en dehors de l'OTAN, mais que, bon, on puisse imaginer que si le peuple ukrainien le souhaite, que l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. Et déjà, si vous vous souvenez, les Allemands et les Français n'étaient pas très chauds, je crois que c'est en 2008, que l'Ukraine a demandé à intégrer l'OTAN, et les Français et les Allemands n'étaient pas chauds parce qu'ils ne voulaient pas justement que ce soit perçu comme une provocation par rapport aux Russes. Maintenant, est-ce que même si la négociation s'est faite sur cette question de la neutralité, est-ce que malgré tout Poutine aurait envahi l'Ukraine? Ça, je ne saurais répondre, mais en tout cas, il y a lieu de revenir à plus de raison dans les conversations, dans la recherche de consensus, parce que je crois que c'est quelque chose qui, c'est un vrai problème à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. On n'est plus vraiment à bloc dans les consensus.
D'accord. Alors, Jean-François Seznec, quelles peuvent être les conséquences économiques pour non seulement les Russes, mais aussi les Occidentaux, avec notamment la dépendance européenne dans une certaine mesure vis-à-vis du gaz russe, et également la perte côté russe de l'exclusion du système SWIFT pour Moscou?
Je pense que il va y avoir des conséquences énormes pour l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. 40% du gaz utilisé en Allemagne vient de la Russie. Et beaucoup moins en France parce qu'ils ont beaucoup d'énergie nucléaire, mais 70% du gaz de Hongrie et de tous les pays au centre de l'Europe viennent de Russie. Donc tout ça, ça va changer énormément de choses. Alors ça va permettre aux Américains de vendre plus de gaz naturel, ça va permettre au Qatar de monter sa production très bientôt, mais ça va prendre du temps, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que la Russie va perdre des marchés très importants. Mais en l'heure actuelle, ça leur donne beaucoup d'avantages dans les négociations.
Mais ces sanctions ne risquent pas de radicaliser un peu les Russes aussi de notre côté, si... Vous pensez que ça peut marcher, les sanctions, ou c'est plutôt...
Ça peut... Oui et non. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de faire quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, le président américain en particulier a dit qu'on n'allait pas faire de sanctions contre le pétrole et le gaz russe pour ne pas faire monter les prix à la pompe aussi aux États-Unis. Mais en pratique, le marché pour le pétrole russe a déjà énormément souffert parce que les banques ne peuvent plus payer, les compagnies d'assurance ne peuvent plus assurer, et donc les ventes de pétrole deviennent très difficiles, et les marchands de pétrole ne peuvent pas vraiment prendre de risques sur la Russie maintenant.
Alors, René, en dehors des protagonistes directs, comment est-ce que, vous parlez un peu des autres acteurs indirects du conflit, comment est-ce que vous expliquez cette posture de prudence dans les prises de position, par exemple, des gouvernements et institutions en Afrique, même pour ne pas dire une certaine sympathie envers la position russe auprès d'une partie de l'opinion publique africaine?
Oui, en fait, et c'est souvent le cas, Abdourahmane, les opinions publiques africaines et leurs dirigeants ne sont pas en général sur la même longueur d'onde. On a vu ça historiquement depuis les indépendances en Afrique. Mais dans le cas d'espèce, je crois que les institutions, que ce soit l'Union africaine ou les chefs d'État, sont relativement prudents dans cette affaire, parce que d'abord, l'Afrique n'a pas de rôle particulier à jouer, même pas de rôle pour aider à la négociation, à trouver des solutions diplomatiques. Mais par contre, les effets négatifs de cette crise, l'Afrique va les ressentir. J'imagine qu'on va y revenir. Maintenant, par rapport à l'opinion publique, je crois que ce qui se passe à Abdourahmane, ça j'y pense, j'en parle beaucoup là depuis 2-3 jours, c'est que il y a un sentiment de peut-être une tension vis-à-vis du monde occidental, notamment sur cette question de la migration, sur cette question de l'assimilation ou de l'intégration selon la perspective que l'on a par rapport aux émigrés africains en Occident et en Europe en particulier, que c'est vrai que les Africains sont relativement remontés contre les Occidentaux, et au fond tout pays, toute puissance qui arrive à les embêter un peu, à empêcher le
développement de leur pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction quand d'un coup on réclame la liberté de se choisir ses amis, ses alliés en Afrique en ce moment? C'est le débat, notamment dans le cas du Mali, mais d'un autre côté on est de comprendre l'invasion russe en disant que ce sont précarés.
Oui, et en plus de ça, la manière dont les Russes interviennent, qui est d'une manière extrêmement violente. De ce point de vue-là, l'ambassadeur kényan aux Nations Unies a fait un discours qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui était assez révélateur à ce niveau-là, et qui lui disait que ça lui rappelait un peu l'époque coloniale, parce qu'au fond, l'attitude russe est une attitude de violence coloniale sur l'Ukraine. Mais encore une fois, les populations en Afrique, notamment en Afrique francophone, par rapport à ce qu'on considère un peu comme le précaré français en Afrique, toutes ces questions néocoloniales, toutes ces questions de l'oppression coloniale européenne reviennent en surface. Et c'est vrai que le sentiment de sympathie vis-à-vis de l'Occident est vraiment très, 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 très faible.
Alors, Jean-François Seznec, en Afrique et au Moyen-Orient, est-ce qu'ils ont à perdre, qu'est-ce qu'ils ont vraiment à perdre économiquement? Est-ce que ce conflit peut aussi se transformer en opportunité, notamment pour les pays producteurs de gaz et de pétrole?
Bien sûr. Alors malheureusement, je ne peux pas parler vraiment pour l'Afrique, mais je sais qu'au Moyen-Orient, c'est une ce qu'il se passe en Ukraine et en Russie est assez bon pour ces pays-là, parce que le prix du pétrole est en train de monter de façon drastique et les États-Unis vont être obligés de négocier avec l'Arabie Saoudite et le Qatar de façon à augmenter la production de pétrole pour garder les prix à un niveau correct et d'essayer de travailler avec le Qatar pour amener plus de gaz vers l'Europe. Donc ça, c'est une très bonne affaire économique pour les pays du Golfe Persique en particulier, aussi pour les pays producteurs africains comme le Nigeria, l'Angola vont certainement avoir beaucoup de bénéfices de cette affaire, de cette tragédie en fait.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaké à Kinshasa nous dit « Vladimir Poutine doit sortir du carcan de l'Empire soviétique et laisser aux anciens pays de l'ex-URSS la liberté de choisir leur propre alliance. Tous ces pays sont indépendants, libres et souverains. Leur intégrité territoriale doit être respectée et ne doit souffrir d'aucune expropriation russe ou occidentale. » Abdul à Brazzaville nous dit « L'Europe doit arrêter de nous faire croire que les Russes sont mauvais » alors que c'est l'OTAN qui est à l'origine de la guerre. Et puis Yao Marcelin Kofi à Abidjan écrit « Ce conflit russo-ukrainien a forcément des retombées négatives en Afrique qui entretient des relations commerciales et des coopérations militaires avec les belligérants. Vivement que le dialogue soit préféré à la confrontation militaire pour un dénouement heureux de cette guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Vous, le public, vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Pour la seconde partie de Washington Forum. Dans son premier discours sur l'état de l'Union, le président américain Joe Biden a vanté son succès dans la mobilisation d'une grande partie du monde contre l'invasion de l'Ukraine par le président russe, par l'armée russe. Kiev est en première ligne de la bataille mondiale entre démocratie et autocratie, a déclaré Biden, ajoutant que la démocratie prévaudra. Davantage avec la correspondante diplomatique de VOA, Cindy Sen, c'est un récit de Jenny Kapumbu-Villa.
Alors que les troupes russes multiplient les attaques contre des villes ukrainiennes telles que Kharkiv et Kiev, devant les deux chambres du Congrès réunies, le président américain Joe Biden a déclaré aux Américains que le monde libre était uni contre l'agression de Poutine.
Le monde libre le tient pour responsable, avec 27 membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres, et même la Suisse, infligent des souffrances à la Russie et soutiennent le peuple ukrainien. Poutine est maintenant plus isolé du monde que jamais.
Biden a déclaré que Poutine avait mal calculé lorsqu'il a lancé cette invasion à grande échelle de son voisin.
Il pensait qu'il pouvait nous diviser chez nous dans cette chambre. Dans cette nation, il pensait qu'il pouvait aussi nous diviser en Europe. Mais Poutine avait tort. Nous sommes prêts, nous sommes unis et c'est ce que nous avons fait.
Cela prendra du temps, a ajouté le président Biden, mais les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN resteront unis et la liberté l'emportera sur la tyrannie. Il n'a pas évoqué le départ chaotique d'Afghanistan en août dernier, mais dans la réponse républicaine au discours de Biden, la gouverneure Kim Reynolds de l'Iowa a fustigé le président pour ce qu'elle a appelé son échec à ce niveau.
Le retrait désastreux de l'Afghanistan a fait plus que coûter des vies américaines. Il a trahi nos alliés et enhardi nos ennemis.
De l'avis des experts, à la lumière de la crise actuelle, il est logique que Biden ait consacré le volet politique étrangère du discours à l'Ukraine, même si beaucoup de choses restent incertaines dans cette crise.
C'est un moment où je pense que Biden a jusqu'à présent prouvé une grande partie de son expérience et de sa valeur. Mais tout dépend de la façon dont les choses se déroulent en Ukraine.
Un autre expert a déclaré à la VOA que la forte réponse positive et bipartite que Biden a reçue après ses déclarations sur l'Ukraine sera remarquée à Moscou.
En matière de politique étrangère, c'est un signal très important. Poutine recherchera tout type de division ou de vulnérabilité dans la politique américaine. Je pense que tout le monde dans la salle, pas seulement Biden, mais tout le monde dans la salle savait que ce n'était pas le moment d'envoyer ce signal.
Le président Biden a de nouveau clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes en Ukraine, mais a juré que lui et les autres membres de l'Alliance Atlantique défendraient le territoire de l'OTAN.
Merci beaucoup Jenny et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, René Lake, analyste politique, et à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, économiste, analyste politique au Atlantic Council. Alors René, sur l'Ukraine, le président Biden a tenu un discours ferme envers Vladimir Poutine. Pour vous, est-ce qu'il a été convaincant?
Je crois que pour les Américains, pour sa cible, hein, pour son audience, l'audience américaine il l'a été, l'audience européenne il l'a été, et je crois que même par rapport à l'audience russe, il a été convaincant dans la mesure où il a clairement rappelé avec force et beaucoup de vigueur du reste que la Russie a été surprise par la réaction unitaire des Européens. Et je pense que c'est vrai. Je crois que Poutine ne s'attendait pas à une telle unité au niveau des Européens. Je vous rappelle, Abdelrahman, que une ou deux semaines avant l'invasion russe, les Allemands, quand ils étaient interrogés sur cette question du gazoduc, n'étaient pas très très clairs. Tout le monde pensait, y compris ici en Occident, on pensait que les Allemands ne seraient vraiment pas partants pour l'arrêt du projet de gazoduc parce que c'est trop important. Comme le disait tout à l'heure Jean-François, leurs intérêts sont énormes à ce niveau-là. Et malheureusement pour la Russie, le jour même de l'invasion, les Allemands ont tout de suite décidé d'arrêter ce projet-là. Les Américains, par la suite, ont décidé de sanctionner les deux entreprises qui sont impliquées dans ce projet. Bref, la Russie, je crois, a été très surprise par cette réaction, par cette unité de l'Occident. Et également, ici aux États-Unis, il y a une certaine unité entre les républicains et les démocrates, comme on a pu le voir au moment de ce discours de politique générale.
Chose assez rare ces derniers temps. Alors, Jean-François Seznec, justement, l'opinion publique américaine ne semblait pas très intéressée par la crise ukrainienne au début. Cela semble avoir changé un peu depuis l'invasion russe et le discours de Biden au Congrès. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Bien, écoutez, d'un point de vue tout à fait égoïste, on va voir tout de suite que le prix du pétrole et le prix de l'essence va monter pour tout le monde. Mais non seulement ça, le prix du blé va monter énormément parce que l'Ukraine et la Russie sont des gros producteurs et exportateurs de blé.
Donc, mais 30% en plus, de la production, des exportations mondiales, ouais.
Les deux principaux. Oui, c'est très très important, mais je crois aussi que vraiment ce que Biden a pu voir et que le reste du pays voit ici très bien, c'est que c'est quand même une issue fondamentale sur la démocratie et que tout le monde est d'accord sur le fait que bon, nous avons des problèmes de démocratie ici aux États-Unis, mais s'il y a un choix entre la démocratie américaine et la dictature de type soviétique qui est encore faite par Poutine en Russie, il y a pas, le choix est très simple et ça a vraiment unifié le pays comme ça a unifié vraiment les Européens avec, ça a renforcé l'OTAN. C'est ce qui est remarquable en fait. Et ça c'est très bien vu, à mon avis, par le reste de la population américaine.
Est-ce que pour vous, on est un peu dans un contexte de retour un peu à la guerre froide, peut-être dans un contexte différent, Seznek d'abord?
Oui, absolument. Il est certain qu'on est... c'est vraiment devenu la guerre froide. Alors maintenant, nous avons deux guerres froides. Il y a une guerre froide avec la Chine et une guerre froide avec la Russie. Mais la guerre froide de la Russie est la guerre froide du bon vieux temps, si vous voulez, où il y avait vraiment un rideau de fer et on avait toujours peur d'avoir une attaque atomique entre les deux pays. Donc on est de retour à ça en ce moment et ça c'est très grave, bien sûr.
Et vous, René, surtout dans ce débat aux enjeux géopolitiques, géostratégiques, en fait, que deviennent les aspirations des peuples dans tout ça?
Oui, c'est une bonne question. Mais vous savez, l'un des changements aussi notables par rapport à la géopolitique d'il y a juste deux semaines, c'est que il y a quand même un nombre important de pays qui sont justement dits neutres, qui se sont positionnés. Et c'est une première à l'échelle.
La Suisse,
La Suisse, la Suède, la Finlande, entre autres, ont décidé d'envoyer pour les uns des armes et pour les autres de se joindre à l'Union européenne pour les sanctions financières et économiques. Donc on est dans une situation...
Mais la Russie n'est pas aussi seule que ça aussi, non?
Comment?
On a vu le Pakistan, par exemple, qui a décidé de faire des commandes de blé. La Chine non plus n'est pas tellement très loin. La Russie n'est pas aussi esselée que ça non plus, non?
Mais vous savez, Abdourahmane, je suis pas certain que les Russes soient contents de l'attitude des Chinois, parce que d'abord ils se sont abstenus aux Nations Unies et au fond ils n'expriment pas de soutien public particulier. Maintenant qu'ils vont chercher à se repositionner pour tirer des bénéfices de la situation au plan financier et économique, certainement, et c'est de bonne guerre.
Et vous, Seznek, la Chine dans tout ça?
Écoutez, la Chine a un rôle très important parce que, bien sûr, c'est le principal client de l'Union soviétique et de la Russie. Bien sûr, ça leur donne beaucoup de force et je pense qu'ils vont jouer un rôle très très important parce que l'intervention russe est vraiment quelque chose que ne peut pas vraiment supporter.
Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et sur le continent, sur notre site voafrique.com, sur notre page Facebook. Et un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.